Bonjour, merci d'être là en ce beau samedi après-midi pour écouter donc l'entretien entre Yvette Roudy et Réjane Sénac-Slavinsky. Je ne vous présente plus Yvette Roudy. Réjane Sénac-Slavinsky est enseignante en sciences politiques à Paris 8 et elle a été secrétaire générale de l'Observatoire de la parité. Donc, je vous laisse la parole.
Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y a aussi des hommes présents aujourd'hui. Donc, pour commencer, je tiens bien sûr à remercier la bibliothèque du Centre Pompidou pour cette initiative, pour ce beau colloque et pour donc aussi ce dialogue qu'on va avoir pendant une heure. Dialogue qui sera un plurilogue puisque bien sûr vous aurez la parole pour un débat avec Yvette Roudy. Donc pour commencer, je souhaite citer une féministe qui, je le sais, a beaucoup compté pour Yvette Roudy. Je veux parler de Simone de Beauvoir, qui, dans la préface d'un ouvrage d'Yvette Roudy, à cause d'elle, avait fait une présentation, voire une définition, si on peut en faire une, d'Yvette Roudy, qui me semble vraiment un bon point de départ. Donc, je vais citer Simone de Beauvoir. Yvette Roudy est une lutteuse, quelqu'un pour qui les choses ne vont pas de soi, qui les met en question et qui combat pour les faire devenir telles qu'elles devraient être. Donc, après cette citation qui vraiment, je trouve très forte, très profonde et révélatrice de la personnalité de cette combattante, de cette lutteuse en politique et en féminisme, je souhaite donc donner la parole à Yvette Roudy pour qu'elle nous dise la manière dont elle peut se présenter elle-même en quelques mots, pourquoi pas en réaction à cette présentation faite par Simone de Beauvoir.
Bien bonjour à tous et toutes aussi, et merci pour cette invitation. Moi, je me reconnais tout à fait dans cette définition de Simone de Beauvoir, et je pense être en effet quelqu'un qui se bat. Je suis une femme politique, si je devais me définir. Je me vois comme une femme politique engagée dans un combat, dans un double combat, en vérité, le combat pour le féminisme et pour le socialisme, puisque je suis également socialiste. Les deux enjeux, pour moi, ne peuvent pas être dissociés. C'est né chez moi d'une révolte contre l'injustice, contre les inégalités et contre tout ce qui ne va pas, en effet, dans la société. Et je me suis dit, à un moment donné de ma vie, que la meilleure façon, c'était effectivement d'aller dans des endroits où on s'organise pour changer, justement, ce qui ne va pas dans cette vie. Donc, ça a été ma démarche. Elle me convient et je crois qu'elle, c'est celle qui me fait vivre et agir depuis plus de 30 ans. Et je crois que ça ne me lâchera pas. Je finirai probablement comme ça.
Donc, dans ce que vous dites, on voit bien qu'il y a bien sûr une volonté de changer un ordre que vous ne jugez pas juste. Et donc, vous dites vous-même que vous avez été dans des lieux qui vous ont permis de passer des convictions à l'action. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur ce passage chez vous et ce qui a été vraiment révélateur de ce passage de la conviction ou des convictions à l'action.
Alors, en effet, au commencement, je n'arrivais pas à analyser ou à comprendre effectivement d'où venait cette révolte qui était vraiment spontanée chez moi. Donc j'ai cherché, j'étais attiré par la lecture. C'est mon premier combat, ça a été pour pouvoir accéder à la culture, puisque j'ai travaillé très jeune, à 17 ans j'ai travaillé. Et donc j'ai continué mes études tout en travaillant. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai fait des rencontres qui m'ont complètement orienté dans ma vie. J'ai rencontré trois personnes déterminantes qui ont beaucoup compté pour moi. Il y a eu Colette Audry d'abord, avec qui j'ai commencé à faire des traductions. J'ai traduit Betty Friedan. Bien sûr, j'avais lu Simone de Beauvoir. Donc les lectures m'ont permis un petit peu de formuler davantage, mieux de mettre des mots sur ces mouvements que je pouvais avoir, qui étaient plus des mouvements d'humeur devant certaines situations, des mouvements de révolte. Donc j'ai commencé à pouvoir élaborer des formules. Colette Audry m'a également aidé à écrire, elle m'a beaucoup appris dans ce domaine, et à formuler donc, des mouvements ou des pensées que je pouvais avoir. Elle m'a fait rencontrer un autre personnage très haut en couleur qui s'appelait Marie-Thérèse Ekem. Que je ne sais pas si ça, ce nom vous dit quelque chose. J'espère que Colette Audry vous dit quelque chose, parce que pour moi, c'est une des plus grandes écrivaines de notre époque. Elle est morte maintenant, bien entendu. Elle avait une écriture assez remarquable. C'était une amie de Simone de Beauvoir. Elle était de la génération de Simone de Beauvoir. Elles avaient beaucoup œuvré ensemble. Colette Audry m'a fait rencontrer Marie-Thérèse Ekem, qui, elle, était engagée dans un mouvement. Et alors, avec Marie-Thérèse Ekem, je suis entrée dans un mouvement, dans une action. C'était le mouvement démocratique féminin. Et tout de suite, nous avons formé un trio qui ne se quittait plus. Et nous avons beaucoup travaillé ensemble, toutes les trois, Marie-Thérèse Ekem, Colette Audry et moi, à faire se développer ce mouvement démocratique féminin, à étudier les problèmes. C'était l'IVG, la contraception, c'était dans les années 60. C'était l'emploi. Il y avait aussi autour de nous Marguerite Thibert, qui n'est plus non plus de ce monde, mais qui était aussi un grand personnage. Il y avait aussi dans ce mouvement Maître Kraberbach, qui a été aussi quelqu'un qui a compté chez les féministes. Donc Colette Audry, Marie-Thérèse Ekem et finalement François Mitterrand, avec lequel je suis entré en politique. C'est Marie-Thérèse Ekem qui m'a présenté François Mitterrand. Donc ces trois personnages m'ont aidé à me façonner finalement, à me forger, à devenir ce que je suis devenu. Je dirais trois grands maîtres finalement que j'ai eu la chance de rencontrer et qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié des tâches, qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé et qui étaient convaincus, il le disait d'ailleurs, que c'était une bonne chose que je puisse avoir la disponibilité qui était la mienne pour pouvoir m'engager en politique. Alors à partir de là, ça a été, je dirais, un engrenage, mais dans lequel je me complaisais, évidemment. Ça a été donc l'action politique. C'était les années 65. Donc vous voyez, c'est il y a quelques années. Mais c'était le moment où il y avait en même temps, du côté du front du mouvement des femmes, le début du mouvement qui ensuite s'est développé dans les années 70. Mais ça commençait déjà, c'était avant 68. Et donc j'étais déjà là, juste avant 68. Après, il y a eu 68. Et j'étais sur deux créneaux. En même temps, je militais dans le mouvement des femmes, dans les associations, et j'étais aussi dans le champ politique. J'étais donc sur ces deux créneaux, et je suis toujours, d'ailleurs, sur ces deux créneaux, selon les périodes, un peu plus ici ou un peu plus là, en fonction des événements ou de mes disponibilités. Mais enfin, les deux combats, pour moi, je ne peux pas les distinguer, je veux dire, ils sont indissociables.
Donc, à travers un peu la description de votre processus et de votre entrée en politique, on voit qu'il y a ce double engagement, féminisme et politique, et en particulier féminisme et socialisme, et pour vous vraiment un engagement mêlé, Donc il y a intrinsèquement des relations très fortes dans ce militantisme qui est à la fois un militantisme féministe et socialiste. Je voudrais que vous nous parliez un peu plus du sens pour vous de cette dualité militante qui n'est pas commune et on pourrait même dire qui est assez rare.
Pour moi, ça va de soi. Donc... J'ai du mal à expliquer ce qui me paraît tout à fait naturel, évidemment. Je ne comprends pas d'ailleurs comment on peut être une femme en politique, puisque je suis une femme politique, je crois avant tout. Hein. Je n'ai pas dit femme publique, parce que tout de suite ça aurait une autre connotation. Si j'étais un homme, je pourrais dire que je suis un homme public, mais je ne peux pas alors. Je dis que je suis une femme politique. Et il y a maintenant de plus en plus de femmes politiques. Pas suffisamment, bien entendu, beaucoup trop peu. 12% à l'Assemblée, nous sommes en France les derniers élèves de la classe européenne. Mais je ne comprends pas qu'on puisse être une femme politique sans être féministe. Et je constate qu'il y a beaucoup de femmes politiques qui refusent absolument l'appellation. Moi, ça me paraît aller de soi. De même, je ne comprends pas qu'on puisse être féministe sans être politique. Parce que le féminisme, qu'est-ce que c'est ? C'est un courant politique. C'est un courant de pensée qui veut changer la vie, qui veut changer les choses. Et dans les démocraties, ça passe par le politique, forcément. Il faut des lois, il faut des actions politiques. Il faut entrer dans le champ politique du pouvoir pour faire des choses. Mais il y a cette image du pouvoir qui fait reculer beaucoup. Parce que pour beaucoup, c'est d'abord changer sa propre vie avant de changer la vie de la société. Donc c'est, il y a aussi ce barrage qui peut se situer. Mais le féminisme, courant politique de transformation sociale, le socialisme, courant politique de transformation sociale, pour moi, doit l'englober. Donc, à mon sens, les deux sont liés. Pour moi, ça va de soi. Et je ne comprends pas du tout cette espèce d'air horrifié qu'ont certaines femmes en disant « Non, non, je ne suis pas féministe » ou « Non, non, je ne veux pas faire de politique ». Je rencontre ça à la fois chez les politiques et chez les féministes. On ne se mélange pas. Et c'est tout à fait dommage. Mais il y a aussi en France une tradition dans les partis, notamment au Parti socialiste, qui a une grosse responsabilité dans ce clivage. Puisque pendant très très longtemps, on a considéré au Parti socialiste, au début, bien entendu, au début du XXe siècle, et même après, que le féminisme était un avatar de la bourgeoisie. Donc ce n'était pas pour un parti ouvrier. C'était bon pour les bourgeoises en chapeau. C'est vrai que les grandes féministes de l'époque portaient des chapeaux. C'est vrai aussi qu'elles étaient des bourgeoises, mais c'est parce qu'elles, justement, elles avaient eu le privilège de naître dans un milieu où on pouvait souffrir des études qu'elles étaient arrivées par la réflexion à devenir féministes. Voilà. Donc, nous sommes les héritières de toute cette histoire. Donc, les partis politiques, le Parti socialiste, qui devrait au contraire être féministe, et toujours, a toujours un peu cette attitude de considérer que le féminisme est un avatar de la bourgeoisie et que ce qu'il faut, c'est s'intéresser surtout au sort des ouvriers et des travailleurs. Ils sont un petit peu en retard, non mais trop sur l'histoire. Je pourrais continuer longtemps, mais enfin, je crois que vous avez d'autres questions.
Donc là, vous avez bien exposé la dimension éminemment politique du féminisme comme projet de transformation sociale et politique. Vous avez vous-même donc été une femme politique, vous l'êtes encore, vous êtes une femme politique, et donc vous avez été confrontée à ce clivage, à ce passage entre conviction et action, et dans votre action politique, vous avez sans doute dû hiérarchiser vos convictions, hiérarchiser vos priorités, et donc j'aimerais que vous nous disiez un peu quels sont les critères qui vous ont permis de hiérarchiser ces priorités en fonction des contextes dans lesquels vous vous situez.
J'ai jamais réfléchi, moi, à une hiérarchie. C'est après coup, avec le recul. Dans les années 60-70, 60 et 70, c'était le début du mouvement de revendication des femmes pour le droit à disposer de leur corps. Donc c'était ça la priorité. Et effectivement, je pense que cette liberté, puisque tout ça c'est quand même une affaire de liberté et de justice, et d'absence de liberté et d'injustice contre lesquelles il faut se battre, donc cette liberté à disposer de leur corps, les femmes ne l'avaient pas. Pas complètement aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même des moyens maintenant pour l'acquérir et la développer. Donc, à ce moment-là, c'était la lutte pour le droit à disposer de son corps qui était la priorité. Ça émanait du mouvement des femmes, de leurs aspirations. Elles commençaient à être de plus en plus instruites, elles commençaient à comprendre de mieux en mieux comment les choses fonctionnaient, elles étaient capables de s'exprimer. On avait fini par leur octroyer le droit de vote, ça n'avait pas été facile. Mais donc elles s'éveillaient à cette liberté et naturellement, très naturellement, elles ont exigé d'avoir cette liberté de choisir les naissances. Et ça a été une des batailles les plus dures, je crois la bataille la plus dure, parce que ça c'était vraiment aller contre l'ordre patriarcal, l'ordre établi, contre l'ordre de Napoléon, qui avait complètement organisé tout le droit et qui considérait que les femmes étaient données à l'homme comme l'arbre à fruits au jardinier. C'était poète à Césaire. Et donc, c'est vraiment ce sujet-là qui était le plus fort, qui s'imposait. Alors, il y avait aussi, naturellement, le droit au travail. Le droit au travail, on l'avait conquis il n'y a pas longtemps non plus. Hein. Il a été longtemps... Pas pour ce qui était de bosser, de travailler sans être... Les femmes ont toujours travaillé, vous le savez aussi bien que moi. Non, c'est quand elles ont commencé à revendiquer un salaire pour le travail qu'elles faisaient et quand elles ont commencé à quitter les campagnes pour travailler dans les villes. Et là, les chefs d'entreprise, au début, c'était au XIXe siècle, ils ont tout de suite pris. Ils ont compris que c'était une main-d'œuvre facile, malléable, beaucoup plus docile que les hommes, par éducation, puisqu'on leur apprend aux femmes à être dociles, obéissantes, à ne pas protester dès la naissance, n'est-ce pas? Alors que le petit garçon, on lui apprend à se défendre. Donc les femmes ont compris que le travail, d'abord, c'était aussi un moyen qui pouvait leur donner accès à une certaine liberté. Donc ça venait en même temps. Mais la hiérarchie s'est imposée d'elle-même. Et s'il y a eu quelques grèves de femmes, il y en a eu très peu. Je n'ai pas vu de manifestation dans la rue vraiment forte de femmes pour l'égalité salariale, même si nous brandissons des pancartes aujourd'hui, le 8 mars, quand on sort, j'en ai aussi porté. Mais des revendications pour le droit à disposer de son corps, ça oui. Et dans les années 70, certaines d'entre vous s'en souviennent, on était dans la rue très souvent. Il a fallu provoquer, il a fallu le manifeste C-343, qui était une pure provocation, parce qu'il fallait trouver un moyen, quelque chose qui puisse choquer, pour obtenir des réactions. Donc la hiérarchie et les priorités, pour moi, elles se sont imposées, elles sont nées du mouvement et je les ai épousées en quelque sorte avec le mouvement des femmes. Mais tout cela, naturellement, toujours un peu en marge de mon action politique, parce que quand je sortais d'une manifestation, que j'allais dans une réunion politique, on ne me demandait pas d'où je venais, ni ce que j'avais fait. Et si j'essayais d'en parler, à l'évidence, ça n'intéressait personne. C'était vraiment là. Il y a encore cette séparation des sphères entre le politique et entre l'action politique et l'action féministe. Ce sont deux sphères différentes. On le voit bien dans les manifestations où il y a très peu d'hommes. Comme si ça ne les concernait pas.
Donc, vous nous avez parlé d'une hiérarchie qui s'imposait naturellement par une écoute des revendications, en particulier exprimées par les associations. Vous n'avez pas abordé la question de la parité. Est-ce que, pour vous, c'est une question qui a un statut particulier ou...
Non, c'est venu après. J'ai un peu suivi la hiérarchie, j'ai un peu suivi
la chronologie,
voilà. Donc, effectivement, la première bataille la plus dure, ça a été celle de disposer son corps, ensuite le droit au travail. Et effectivement, vient fatalement se poser la question de la représentation parlementaire, là où on fait les lois. Alors, il y a toujours eu chez les féministes des divisions là-dessus. George Sand n'y croyait pas. D'autres n'y croyaient pas non plus. Elle pensait qu'on pouvait changer les choses sans passer par la loi. Et dans une démocratie, c'est pas vrai. Et nous voulons être une démocratie quand même. On n'est pas une démocratie puisque il n'y a que 12% de femmes au Parlement. Mais nous prétendons faire partie des démocraties. Et dans les démocraties, les transformations passent par les lois. Quand on ne peut pas obtenir de transformation naturellement de la part de la société, quand ce ne vient pas d'un mouvement naturel des choses, eh ben, il faut les imposer. Et à ce moment-là, on passe par la loi. Et la loi est faite pour protéger les plus faibles et pour leur permettre d'avoir une vie moins opprimée. Donc il faut arriver, mais ce n'est pas fait encore, on a du retard. Il faut arriver au moins au niveau des pays scandinaves ou des Espagnols, qui nous ont déjà dépassés d'ailleurs. Je crois qu'elles sont à 38%. Nous, on est à 12%. C'est très important. C'est bien plus facile d'intervenir directement plutôt que d'aller faire le siège des messieurs à l'Assemblée nationale ou des messieurs-dames au gouvernement pour leur demander, s'il vous plaît, voulez-vous bien nous permettre de... etc. C'est légitime et c'est plus digne que d'agir par influence. Il vaut mieux être directement à l'Assemblée et directement à l'endroit même où on fait les lois. Et ça se passerait très différemment. S'il y avait autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée, il y a des discussions qui prendraient un tout autre tour. Il y a des mots et des cris ou des vociférations qui n'existeraient plus. Parce que dès qu'une société ou un groupe se féminise, et vous savez que le seuil, c'est 30%, les comportements des hommes changent. Ils se tiennent mieux. Ils s'abandonnent moins. C'est reconnu par eux-mêmes, d'ailleurs. Ce sont des hommes. Je me souviens, c'est Gaston Defferre qui me l'avait dit. Que depuis qu'il y avait des femmes... Il avait dit à un homme devant moi, il avait dit, on n'est plus seul maintenant, il faut faire attention, on n'est plus seul maintenant, il avait dit, il faut faire attention à ce qu'on dit, nous ne sommes plus seuls. Alors évidemment, ça les oblige à se tenir mieux. Et dans la discussion, il y a effectivement des arguments, des propos, des mots qu'ils n'osent pas prononcer. Donc, on peut arriver au point... ou quand il y a suffisamment de femmes qui sont à équivalence de pouvoir, ou quand une femme atteint un certain niveau de pouvoir, il n'y a même plus de discussion. Moi, je me suis rendu compte que quand j'étais ministre ou quand j'étais maire d'une ville, j'avais beaucoup moins de problèmes pour obtenir ce que je voulais que quand je n'avais pas de titre. Je me souviens d'ailleurs de mon étonnement lorsque j'étais au gouvernement, de la facilité avec laquelle j'avais obtenu de l'armée qu'elle adapte des concours aux femmes. Ils avaient accepté que certains concours soient ouverts aux femmes. À partir de là, ils avaient fait les adaptations nécessaires pour leur permettre le parcours du combattant, je ne sais quoi encore, très naturellement. Ils acceptaient l'autorité. Mais il faut arriver à un certain niveau pour... à partir de là, les choses se passent beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. Donc il faut qu'il y ait des femmes dans ces lieux de pouvoir. Et nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine. L'application des lois ne suit pas. les priorités seraient différentes. Je suppose que les choses se seraient peut-être passées différemment lorsque l'on a discuté de la publicité en matière d'alcool, puisqu'il y a eu à un moment donné, à propos du vin, un gros débat à l'Assemblée où il fallait défendre les... c'était pas les bouilleurs de cru, mais il y avait à défendre une certaine catégorie sociale producteurs de vin. Et je sais que les femmes, dans ces cas-là, réagissaient différemment des hommes, mais elles étaient très peu. Quand on discute des voitures, la place de la voiture dans l'espace, les femmes ont des réactions différentes. Elles n'ont pas la même adoration pour une voiture. De temps en temps, elles peuvent même s'en passer. Alors, elles ne se sentent pas atteintes dans leur féminité parce qu'elles auront une petite voiture. Elles ont un ego moins surdimensionné. Donc il y a des petites choses comme ça. Je ne veux pas dire que ce sera une révolution. Si, ce sera une révolution. Dans la mesure où il aura fallu faire plier ceux qui n'en veulent pas des femmes. Mais autrement, sur le plan des décisions, très vite, je crois qu'à un certain moment, les uns et les autres finiront par avoir des réactions qui pourront se ressembler. Donc c'est une bonne chose, plutôt que de vivre séparément. Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas, parce que l'idéologie patriarcale, même si on a fait disparaître de la loi et du langage la notion de patriarcat, on parle maintenant d'autorité parentale, on ne parle plus d'autorité paternelle. En réalité, dans les têtes, le patriarcat existe encore. Et on le voit dans les réactions des uns et des autres. Donc c'est important qu'il y ait des femmes à ce niveau. Nous sommes loin du compte en France, très loin du compte. Nous avons une première loi qui commence par les élections secondaires. C'est un petit peu les couloirs, c'est-à-dire du pouvoir. Ce sont les régions, c'est important les régions. Les régions, les municipalités, c'est très important, c'est l'Europe, mais ce ne sont pas les élections nationales. Ce n'est pas l'endroit où on fait les lois. Donc on s'est dit, je sais que ce n'était pas absent dans la tête de ceux qui ont rédigé le texte, on va commencer comme ça, seuls pourront apprendre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours cette notion d'apprentissage. Il faut que les femmes apprennent d'abord. Je me souviens quand j'ai voulu faire une liste, lorsque j'étais maire, je voulais une liste paritaire avant même d'avoir la loi. Et il fallait un peu aller chercher les femmes et les décider, parce qu'elles n'osent pas. On leur a tellement dit qu'elles n'étaient pas faites pour ça qu'elles ont fini par le croire. Alors il faut les convaincre qu'elles le peuvent. Voilà. Mais toutes disaient, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais aller me former? Pas un seul homme ne m'a posé la question. Ah, ils sont naturellement compétents. Ils ne font pas d'erreur, ils ne se trompent pas là-dessus, dans ce domaine-là. Donc tout ça aussi, il y a beaucoup de choses à changer dans les têtes, évidemment. Mais en général, les femmes mères sont de très bonnes mères. Et la féminisation est difficile, vous savez, quelquefois. Si je disais qu'elles sont de très bonnes mères, ce que je devrais dire, évidemment. La féminisation et le langage, c'est aussi quelque chose d'important qu'on n'a pas encore complètement maîtrisé, mais ce n'est pas neutre. La semaine dernière, je peux raconter... non, parce que je me suis trouvé devant une situation que je n'avais pas réalisée jusqu'alors la semaine dernière, où je devais parler sur la pauvreté. Je devais faire un papier. Et j'ai réalisé tout d'un coup, en faisant la liste des allocations, quand on voit les RMistes, les SMICards, les bénéficiaires de l'allocation parentale, de l'allocation de parents isolés, etc. En fait, ce sont des femmes, mais dans le langage, on ne le sait pas. On parle des SMICards, en fait, elles sont majoritairement des SMICards. On parle du RMI, mais c'est majoritairement des femmes RMistes. On parle des familles monoparentales, mais c'est majoritairement des femmes qui sont monoparentales. On vous parle du temps partiel, des ouvriers à temps partiel ou des employés à temps partiel. Ce sont des femmes à 80%, mais on ne le dit pas. le travail précaire sont aussi des femmes, massivement, majoritairement, mais on ne le dit pas. Le langage gomme. Donc ça participe de l'invisibilité des femmes. C'est pour ça que Benoît Tegroux a eu raison lorsqu'elle m'a poussé à essayer de faire sortir une circulaire sur la féminisation des titres. Et j'ai découvert avec étonnement qu'on se heurtait à beaucoup plus de résistance pour demander une féminisation des titres, qui est un élément culturel, plutôt que d'obtenir l'égalité professionnelle, par exemple, qui est passée comme une lettre à la poste. Remarquez, ils ne l'ont jamais appliquée, alors. Mais sur les principes, quand même. Donc, c'est très curieux. Donc, c'est important, la politique. Et on est très en retard en France. On est un pays très, très, très machiste, très misogyne.
Donc, on a bien compris, en vous écoutant, que vous n'avez pas eu à apprendre pour être une femme politique à part entière et même plus qu'à part entière. Je voudrais juste que vous développiez justement toutes les stratégies, on peut appeler ça comme ça, qui vous ont permis de lever le voile sur ces inégalités et qui vous ont permis de rendre visible cette société inégalitaire. Donc, des stratégies, vous en avez déjà cité quelques-unes. Le manifeste des 343, les lois, l'autorité politique. Donc, on voit bien là qu'il y a une dimension polymorphe de votre engagement, mais aussi de votre manière d'agir et de transformer vos convictions en actions.
Oui, moi, je ne me rends pas bien compte. Hein. Les stratégies, elles viennent... On est obligé de s'adapter. Voilà. Tout dépend du moment, de l'état de l'opinion, des alliés que l'on peut avoir et de sa propre situation. Le manifeste des 343, je n'ai fait que signer. J'y suis pour rien. On m'a demandé de signer, j'ai tout de suite accepté, mais ce sont d'autres que moi qui ont eu cette idée. C'était Simone de Beauvoir avec d'autres féministes. Il y en a ici, d'ailleurs, qui étaient dans ce mouvement. Le texte a été écrit, je ne sais pas par qui, je ne sais pas si c'est Anne Zelensky, ou je crois que c'est Anne Zelensky qui a écrit le texte. Moi, j'ai signé. En revanche, si je prends un autre exemple de stratégie, le remboursement de l'IVG, lorsque j'étais au gouvernement, j'étais donc ministre à ce moment-là, ma difficulté venait de ce qu'il fallait convaincre le président de la République qui hésitait. Et là, je l'ai un peu harcelé, je dois dire, avec un seul argument qui était celui de la justice sociale. Parce que je savais qu'il serait sensible. Je savais qu'il était sensible aux arguments de justice. C'était un homme de justice. Et je lui disais, la loi existe, c'est très bien pour les femmes qui ont les moyens, mais celles qui n'ont pas les moyens, elles continuent d'être livrées au hasard, dans les pires conditions, etc. La loi doit être la même pour tout le monde, lui disais-je, et je répétais ça. Il faut une égalité devant la loi des citoyens. Alors évidemment, lui, il ne pouvait pas dire le contraire. C'était des idées qu'il avait défendues toute sa vie. Je l'ai convaincu comme ça. Serait été quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais utilisé un autre argument. Tout dépend de la personne que vous avez à convaincre. Quand j'ai commencé à parler des quotas au Parti Socialiste, ça a hurlé, évidemment. Ça fait hurler toujours, d'ailleurs. C'est très désagréable, c'est affreux de se dire qu'on est obligé d'avoir recours à des moyens pareils, alors que c'est indigne, même. Donc, alors j'ai essayé de dire, proposez-moi quelque chose pour changer la situation. Mais personne ne proposait rien. C'est comme la loi sur la parité. Les gens qui étaient hostiles à la loi sur la parité, ils étaient contre, mais ils ne proposaient rien. Alors, justement, le politique et l'engagement politique fait que l'on cherche et que l'on essaie de trouver des idées pour faire bouger et entraîner un mouvement. Il y a des moments où on ne sait plus quoi faire. Au moment de la... Après la sortie de la charte d'Athènes à propos de la parité en 92, on n'arrêtait pas de faire des colloques, des rencontres, des pétitions. on n'arrivait pas à faire bouger le monde politique. Les féministes étaient très actives, on se dépensait beaucoup, beaucoup d'énergie. On cherchait des arguments, rien ne bougeait. Je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, il faudrait trouver une idée qui puisse choquer. Un peu comme le manifeste 343, provoquer, choquer. Et j'ai eu l'idée de faire quelque chose qui ne s'était jamais fait, une alliance avec des femmes de droite. Pour moi, une femme de gauche. Et je suis allé trouver Simone Veil, que j'avais connue au Parlement européen, qui est féministe. Et je lui ai proposé une action commune de dénonciation de la situation, de l'absence des femmes en politique, en disant que c'était honteux, que la France était au dernier rang, qu'il fallait changer, une réflexion. Elle a été d'accord et on a fait un petit groupe de 5 femmes de droite et 5 femmes de gauche. Et on a sorti un manifeste avec un soutien de médiatique, parce que si vous n'avez pas les médias, ça ne bouge pas non plus. Ça a créé un choc. Au Parti socialiste, quelqu'un a proposé des sanctions contre moi. parce que j'avais élaboré une alliance avec... il vaut mieux en rien. Donc, ça a été fait timidement par une seule personne, mais qui était encore sur les positions d'autrefois de ne pas du tout confondre le féminisme avec le socialisme. Mais ça, on a pu faire bouger, parce que non seulement on avait créé un événement qui ne s'était jamais produit, on avait pu avoir un soutien médiatique qui avait permis un grand affichage dans toutes les villes. C'était l'Express qui avait accepté d'en faire la une. Une journaliste qui est entrée dans le jeu est allée interroger les hommes politiques qui ont été obligés de répondre. Et à ce moment-là, à partir de là, ils ne pouvaient plus dire qu'ils n'étaient pas au courant, qu'ils ne savaient pas. Ils ont été obligés de faire des propositions et le mot est entré dans le champ politique. Donc il faut chaque fois trouver des idées pour associer, pour créer des réactions. Et au fond, les stratégies, il faut s'adapter, quoi. Il faut trouver en fonction du moment, en fonction du contexte, en fonction, comme il est convenu de dire, de la conjoncture, des personnes auxquelles on a affaire et de sa propre position. C'est beaucoup plus facile quand on a une position de pouvoir reconnue, quand on a un mandat, que quand on n'est rien. Alors à ce moment-là, eh bien, on va dans les associations. C'est pour ça que les associations sont indispensables. Il faut établir des liens entre les associations et le politique. Ça existe très bien dans les pays scandinaves. Là encore, nous sommes une originalité. Dans les pays nordiques, d'abord, les gens ils n'ont pas honte d'être dans un parti. Ils sont massivement adhérents, plusieurs centaines de milliers. Ils sont presque 10 fois plus qu'en France. Et ils sont aussi dans des associations. Et les associations sont des groupes de pression qui sont reconnus. Pas seulement en faisant du bruit dans la rue. En France, pour obtenir quelque chose, il faut aller faire du bruit dans la rue. D'ailleurs, les plus gueulards obtiennent ce qu'ils veulent. Hein. Si on peut sortir et casser, aussitôt on attire l'attention. Et les femmes, ce n'est pas leur genre. Elles sont quand même moins violentes. Donc, elles ne sortent pas beaucoup dans la rue pour manifester. Sauf que maintenant, le 8 mars, c'est presque une sortie de fête, quoi. Non ? Si, un peu. On y va comme... C'est un plaisir. Oui, mais c'est spécial cette année. Il faudra que ça s'arrange. Il faut que les femmes comprennent qu'elles doivent s'unir. L'union fait la force, ça c'est une leçon politique. Et c'est la division qui fait la faiblesse. Et ça, croyez-moi, qu'on sait nous diviser. Hein. On est capable de se diviser nous-mêmes, sans doute. On n'a pas besoin qu'on vienne nous diviser. Mais si on n'y arrive pas toute seule, il y a plein de gens qui sont là pour venir nous diviser, nous expliquer qu'il ne faut pas aller avec celle-là parce que ce n'est pas convenable, pas aller avec les autres parce que c'est encore autre chose, pas aller avec celle-ci parce que celle-ci, on sait qu'elle va avec quelqu'un d'autre. Le résultat, c'est qu'il y a forcément des manipulations. Donc l'union en matière de stratégie, c'est quelque chose d'excellent, c'est ma conviction.
Donc je vais
je vous le recommande.
Je vais rebondir sur donc cette importance de l'union et cette importance des alliances qu'on voit à travers votre discours triple, alliance donc avec le politique, alliance avec l'associatif et alliance aussi avec les médias et donc le pouvoir des médias. Je voudrais que vous abordiez peut-être plus précisément les personnes qui, dans le monde politique, ont été des relais de votre action pour ensuite aborder plus vos rapports avec le féminisme et les relais que vous avez pu avoir, et à la fois les relais et les sources que vous avez pu avoir au niveau du féminisme. Mais commençons par le monde politique.
Donc moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui était François Mitterrand, dont je dis que c'est un des plus grands hommes politiques que nous n'ayons jamais eu. Voilà, c'est ma conviction. Et il écoutait, il comprenait, il te faisait confiance et il donnait les moyens de décider. Donc, il a été un soutien. Sans ce soutien, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai pu faire. Donc, je n'hésitais pas. Pendant toute la période où j'étais au gouvernement, quand il y avait une difficulté, il y en a eu beaucoup, parce que tout ce que je faisais contrariait beaucoup l'ordre établi. Quand je dis l'ordre établi, ce n'est pas seulement des groupes comme l'Église, comme certains groupes connus pour leur misogynie, mais c'est aussi une sorte d'immobilisme de notre administration qui est très lourde. Nous avons un appareil d'État qui est très très lourd, qui n'aime pas être dérangé. Et chaque fois que l'on proposait quelque chose de neuf, et moi tout ce que je proposais c'était nouveau, par définition, il y avait toujours un haut fonctionnaire qui venait me voir et qui me disait: Madame, on ne peut pas faire ce que vous voulez. Je disais pourquoi? Parce que ça ne s'est jamais fait. Voilà. Et pour ce grand personnage, qui a certainement fait une très belle carrière, qui traduisait certainement l'esprit dominant, ça suffisait. On ne peut pas faire parce que ça ne s'est jamais fait. Donc, il y a chez nous, dans notre administration, une certaine lourdeur. Nous avons une grande et pas mauvaise administration, sauf qu'elle n'aime pas les changements. Elle n'aime pas changer. Et qu'elle a un réflexe de refus. Tout ce qu'on peut proposer, tout ce que les féministes peuvent proposer, c'est un petit peu comme un corps étranger qui va vouloir se greffer. Il y a donc de la part du corps dominant un refus, un rejet. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce que les féministes ont arraché sont des mesures très fragiles. Ça peut très bien revenir en arrière. Parce que les adversaires, eux, n'ont jamais désarmé. Ils sont toujours là. On ne les a pas toujours identifiés, quelquefois. On a quelquefois du mal à les identifier, d'ailleurs. Quelquefois, certaines solutions ou certaines mesures sont bloquées. On ne sait pas d'où ça vient. Simplement, ça n'avance pas. Ça n'aboutit pas. Les décrets d'application ne sortent pas. La loi Neuwirth, qui a été votée en 67, je crois, a attendu ses décrets d'application jusqu'en 1974. Quand on a été sur le point de voter la loi sur l'IVG, la loi Veil, on s'est aperçu qu'on n'avait pas encore fait sortir les décrets d'application de la loi sur la contraception. Alors, on les a quand même sortis. La dernière loi sur l'IVG de 2001 ou 2002, je ne sais plus très bien, je crois que c'est 2001, ce n'est qu'en 2004... qu'on a sorti une partie des décrets. Mais je vais m'arrêter alors. Il y a des blocages. Voilà. Donc il y a eu ça. Alors vous vouliez parler des féministes. Alors les féministes ont soutenu l'action du gouvernement, mais elles étaient à l'intérieur du ministère quand j'étais au gouvernement. J'avais demandé, c'était un ministère de mission, j'avais pu composer mon équipe comme je voulais. Donc j'avais Simone Yves d'un côté pour le planning familial, elle était dans les murs, Elle était conseillère technique avec des moyens. Elle avait un pouvoir de chef de service, de conseillère technique, d'un côté. Et Christiane Gilles, qui était une très, très active pour ce qui est du travail des femmes à la CGT, je lui avais confié tout le secteur de l'emploi. Et j'avais aussi un secteur que je voulais culturel, parce que je ne voulais pas simplement faire que du social. Je pense qu'il y a une dimension culturelle dans les droits des femmes. Et c'était Michel Coquillat, qui n'est plus de ce monde, et qui s'occupait de cela, et qui a donc mis en route beaucoup, beaucoup de mesures, en invitant Benoît Groux, Simone de Beauvoir, qui venait régulièrement, Colette Audry, Anne Zelensky aussi. Donc il y avait pas mal de féministes qui étaient à l'intérieur de la maison directement. Donc j'avais pas besoin d'aller les rencontrer, mais je réunissais aussi les associations régulièrement. Et dernier exemple, promis que j'arrête, je le cite parce que, comme beaucoup de gens ne savent pas, mais vous le savez ici parce que vous êtes informés, il y a eu une conférence à l'ONU récemment. Et j'avais organisé, tous les 5 ans, il y a une grande conférence sur les droits des femmes internationales, on fait le point, c'est l'ONU qui l'organise. Et en 85, j'avais organisé une de ces conférences à Nairobi, j'avais frété un charter où j'avais invité des représentantes de toutes les associations qui voulaient bien venir aller à Nairobi, certaines s'en souviennent encore. Voilà. Je n'ai pas connaissance qu'on ait fait la même chose récemment. C'est un peu en recul, tout ça. Voilà, j'arrête.
Alors, excusez-moi de vous avoir un peu... mais c'était juste parce que je pense qu'il est important de garder 10 minutes, peut-être, pour des questions avec la salle. Moi, en guise de point de suspension et pas du tout de point final, je voudrais juste dire que j'avais comme idée, quand on a préparé cet entretien, de poser une dernière question sur l'idée que votre parcours pouvait avoir valeur d'exemple dans ce qu'il permettait de voir que vous aviez transformé donc des convictions en actes et en droits. Et vous m'avez répondu que vous n'aviez pas de leçons à donner. Et moi, je poursuis en disant que, en tout cas, vous nous donnez, j'en suis sûre, l'envie de continuer et l'envie de continuer à ne pas accepter ce qui est comme ce qui va de soi. Donc je vous laisse maintenant la parole. Il y a peut-être un micro baladeur ou est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser la question? Merci.
Je vais faire très court. J'ai la consigne de faire très court, je vais faire très court. Je m'appelle Chantal Clos, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle ICW Collectif des Mères. Alors Yvette Roudy, je vous ai croisée un soir à une réunion au CNDF, puisque je suis suffisamment active aussi au niveau du CNDF pour avoir essayé de trouver une réponse aujourd'hui à notre problème de femmes. Et je souhaiterais savoir si Ségolène Royal, qui est dans le même groupe politique que vous, est une féministe, puisqu'elle a soutenu le principe de la garde alternée. Est-ce qu'elle continue de soutenir un certain nombre de groupes de masculinistes, puisqu'elle pose visuellement sur leur site internet? Elle a complètement oublié que quand même la violence conjugale, c'est grave. La violence sur enfant, le viol incestueux sur enfant, c'est grave. Elle persiste dans son chemin. J'aurais souhaité savoir comment vous vous positionnez par rapport aujourd'hui à ce problème-là, puisque nous sommes des femmes condamnées à des peines de prison alors que nous protégeons nos enfants victimes de viols incestueux et que nous refusons d'appliquer les décisions de justice. Il faut poser des actes, il faut poser des mots. Moi, j'essaye de le faire le mieux que je peux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'aimerais bien avoir votre soutien et le soutien d'autres femmes qui sont engagées politiquement, et que Ségolène Royal a quand même des questions, a quand même des réponses à donner à nos enfants et à nous. Voilà.
Alors, il y a deux choses. Vous me citez le cas de Ségolène Royal. Moi, je ne vais pas entrer dans ce cas personnel. Moi, je pense qu'elle est féministe. Je ne la connais pas très, très bien. Mais je pense qu'elle a de grandes responsabilités aujourd'hui. Je trouve que c'est une femme politique forte, conséquente. Je me souviens qu'elle a eu l'idée, elle a eu une idée qui me donne à penser qu'elle pense comme j'aime bien voir une femme penser. C'est quand elle a proposé ça concernait la prostitution, qu'elle a proposé la poursuite du client lorsqu'il s'adresse à un mineur. C'est une brèche qu'elle était en train d'ouvrir. Moi, ma conviction sur la prostitution, c'est qu'il faut sanctionner le client. Ça, c'est ma conviction. C'est ce qu'on fait en Suède. Elle a un peu ouvert la porte de ce côté en provoquant de très violentes réactions chez certains de ses collègues, et non des moindres, qui défendaient ces malheureux jeunes gens qui ne pouvaient pas distinguer s'ils s'adressaient à une femme majeure ou mineure. Donc, moi, je serai moins sévère que vous. Il faut vérifier. Méfiez-vous de ce qu'on fait dire aussi un peu aux gens. Il faut voir un petit peu. Votre combat à vous est tout à fait légitime. Et dès l'instant où vous l'avez entrepris, où vous êtes organisé, il faut le poursuivre. C'est toujours très difficile de mener un combat contre les idées reçues et contre les habitudes reçues. Et dans le domaine dont vous parlez, effectivement, vous allez là aussi contre l'ordre établi, l'ordre patriarcal, qui a priori donne toujours raison au père. Donc c'est un combat que moi je trouve tout à fait très digne et très légitime. Je ne connais pas les détails, mais si vous revendiquez effectivement la défense de vos enfants menacés, vous avez raison. Et ça, comme tous les combats, ils se défendent de pied à pied en s'adaptant, en cherchant des alliés autour de soi.
Oui, c'est Serena Chafik. Je suis d'origine égyptienne et je suis française. Et je tiens à dire quand même qu'en 82, il y a eu des conventions bilatérales qui ont été signées. C'est des conventions surtout commerciales. Mais il y a un petit volet qui concerne nous, les femmes, qui sont vraiment pas visibles, les femmes d'origine étrangère, et qui sont traitées un peu n'importe comment par nos lois, puisque ici, en France, on peut appliquer la charia, par exemple, et on peut nous spolier de nos droits civils. Et aujourd'hui, je peux me définir un peu comme étant une femme française qui est sous la loi musulmane, qui a toutes les obligations d'une Française et qui n'a pas les droits d'une Française. Donc voilà quelque chose en politique, parce que c'est éminemment politique aussi, c'est toujours avec des pays amis, donc c'est la politique étrangère qui a complètement spolié les femmes d'origine étrangère.
C'est un des points les plus difficiles à combattre, que ces relations avec ces pays qui ne veulent pas reconnaître les lois françaises ou qui considèrent qu'elles s'arrêtent ou commencent la vie privée. Je pense qu'on va y arriver, mais je pense qu'il faut se battre aussi très fort. Je sais qu'il y a eu des conventions qui ont été acceptées avec le Maroc, l'Algérie, notamment, et où ça s'est passé en dehors des ministères droits des femmes ou autres. Ça se faisait dans le sein des affaires de ce qu'il était convenu d'appeler le ministère des Affaires étrangères, et ça se faisait toujours avec beaucoup de discrétion. Donc, moi, je me souviens très bien que quand j'avais soutenu ce qu'on avait appelé le bateau pour Alger, une opération, c'était quelque chose de différent de votre situation. C'était des Françaises qui avaient épousé des musulmans, et qui, au moment du divorce, s'apercevait que le père pouvait très bien amener chez lui les enfants où le droit du pays leur reconnaissait la totalité des droits. Il y avait cette revendication des femmes qui m'avaient demandé de les aider. Je l'avais fait presque clandestinement. J'avais financé le bateau et j'avais financé tout ce qu'elles voulaient faire pour se rendre à Alger. Je les avais aidées. Sans le publier, elles avaient obtenu gain de cause. Vous avez à obtenir que dès l'instant où vous êtes sur le sol français, eh ben c'est la loi française qui doit s'appliquer. Et ça, on doit pouvoir arriver à le faire reconnaître. Il faudra y arriver à le faire connaître. Mais pour ça, il y a un travail à faire à la fois auprès des autorités françaises et auprès des autorités du pays qui revendique le droit. Je crois que cette affaire-là va se régler. Je crois qu'il va y avoir une sorte d'accélération sur cette question. Au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de femmes comme vous qui vont s'organiser, créer des associations, revendiquer, faire du bruit. Faire du bruit.
Oui, Sandra Loger, je suis philosophe et je voulais vous entendre encore sur ce sur quoi vous aviez terminé, sur cette idée du recul, hein, puisque je me demandais sur quel plan, au pluriel, vous mettiez ce recul, puisque est-ce que c'est... Alors, je pense que c'est plusieurs plans, puisque est-ce que c'est celui de la latitude au plan de l'action gouvernementale, c'est-à-dire que personne n'a eu apparemment les possibilités d'action que vous avez eues. Est-ce que ça serait au plan politique le recul de la force du mouvement féministe, son unité, son existence réelle, ou est-ce que c'est aussi au plan, comme vous disiez, culturel de la réflexion, du renouvellement de la réflexion et de la légitimité aussi de la théorisation féministe, ou est-ce que c'est les trois ensembles ou d'autres choses? J'aurais voulu vous en disiez plus.
Moi, je ne sais pas. Hein, il faudrait regarder de plus près. J'ai constaté qu'à chaque fois, en matière de progrès, à chaque fois qu'il y a une avancée, très souvent, les gens s'imaginent que la question est réglée. Une loi est passée, donc on pense que c'est réglé. Alors, on lève le pied. Alors, on se repose un peu. Et à ce moment-là, les vieilles habitudes reviennent par toutes sortes de chemins parce qu'elles sont très fortes. Il aurait fallu que ce ministère reste en place, peut-être avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais qu'il continue. Oui. Ben oui. Oui. Il aurait fallu que ce ministère, moi j'avais essayé de l'implanter suffisamment fort. Ce que j'ai pu implanter, c'est les CIDF. Ils ne s'en sont pas beaucoup aperçus, mais j'avais fait beaucoup d'efforts pour que ce soit irréversible. Mais il aurait fallu que ce ministère de mission devienne absolument indéboulonnable. Or, je ne vous dis pas la rapidité avec laquelle il a été pulvérisé dès l'instant où on a perdu les élections. Et ça s'est fait sans concertation. Personne n'a posé la question. Les femmes elles-mêmes dans les associations n'ont pas tellement réagi. Ça aurait été au Canada, ça aurait été... Enfin, écoutez, moi, j'étais en plein cœur du truc. Je peux vous dire que si ça avait été au Canada, et que si ça, mais ça, ça tient à la culture du pays, ou dans les pays scandinaves, eh bien, il ne se serait pas permis de le laisser se dissoudre. Il ne se serait pas permis, parce qu'ils auraient senti qu'il y avait une pression. Si les femmes étaient aussi bien organisées que les agriculteurs, avec la même capacité de terrorisme, mais... On ne peut pas. Le mouvement des femmes n'est pas assez fort, voilà. Je vous dis, moi, quand je vois défiler les chasseurs, les agriculteurs, où tout le monde tremble et recule. Ben, il faut voir la rapidité avec laquelle ils savent s'organiser. Hein. Ben, c'est une autre culture.
Alors, c'est tout le monde. Denise Brial, militante féministe. Yvette Roudy, depuis en France, depuis 1975, où François Giroud, de gauche, est venu comme condition féministe sous la droite, jusqu'à Nicole Ameline, dont gouvernement Raffarin, qui est ministre de la parité et de l'égalité professionnelle. Que pensez-vous de toute cette évolution politique à travers les ministères conditions féminines, droits de la femme comme vous? Quelle est votre synthèse à vous à ce jour?
Moi, je crois que les mots ne sont pas neutres. Je tenais beaucoup, moi, à l'appellation de droit. En France, en République, on sait ce que c'est que les droits, en principe, quoi. Donc, en mettant en avant les droits des femmes, ça va être les droits de la femme, enfin, les droits, je me disais que personne n'oserait contester la chose. c'est-à-dire la reconnaissance des droits, leur application, leur défense, etc. Malheureusement, les mots ne sont pas neutres. Et à chaque fois que je vois les appellations s'effriter, je suis inquiète parce que je sais qu'en même temps, c'est les idées qui reculent. La condition féminine, ce n'est pas les droits des femmes. Je le disais tout à l'heure, je ne me suis pas arrêtée à la question du travail, du corps, etc. Je voulais aussi couvrir le champ culturel, c'est-à-dire la création des femmes, la formation des petites filles, l'intervention dans les écoles au niveau de la formation professionnelle, prendre la question à la racine, utiliser toutes ces analyses que nous connaissons maintenant un peu partout et qui nous disent bien que, comme disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Moi, c'est ma conviction. Donc, il y avait tout ce travail. C'est d'ailleurs ce qui se fait en grande partie, moi, j'en suis très heureuse de le voir, en Espagne, pas chez nous.
Maya, tu voulais peut-être poser une question ?
Une dernière question, parce qu'ensuite, on... Oui, une remarque.
Je voulais... Maya Surdut, collectif Droits des Femmes et CADAC. Non, moi, je voudrais sur le mouvement des femmes. Je trouve extrêmement difficile qu'on dise « Ah, les femmes font pas assez ». Je veux dire, si on regarde sur la remise en question des acquis pour tout le monde, mixte, hein, on a des gouvernements, on a actuellement par exemple un gouvernement qui passe sur le corps, on peut dire, tout le monde. Parce qu'on est en train de remettre... On n'a jamais eu un gouvernement si réactionnaire, et ce n'est pas parce que les gens ne se battent pas. Il y a eu, par exemple, sur les retraites, des mouvements de mobilisation il y a 2 ans d'une ampleur considérable, qui ont duré des mois. Il y a des camarades, d'ailleurs, qui sont ici, qui ont participé à ces grèves et qui ont payé très cher pour cela, et qui n'ont rien obtenu. Il y a eu les retraites, il y a eu la protection sociale. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mouvements sociaux. Le problème, c'est qu'on est effectivement dans une situation politique, économique et sociale au plan mondial extrêmement difficile. Les rapports de force sont mauvais. Et maintenant, alors on dirait, les femmes, elles ne font pas assez. Je regrette, nous avons quand même obtenu. Moi, je te rends hommage, Yvette, à tout ce que tu as fait à ton époque, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu... Michel André a fait un excellent boulot sur, par exemple, sur les violences. Sur les violences, il en est resté
Nicole Perry.
Et Nicole Perry a fait des tas de choses, etc. Tout le monde a fait, elles ont fait ce qu'elles ont pu à un moment donné, oui. Et ne dit pas. C'est extrêmement mauvais. Tu permets, tu as parlé, c'est mon tour. Oui. Non, c'est extrêmement mauvais de dire le mouvement des femmes ne fait pas assez. Oui. Le mouvement des femmes fait ce qu'il peut. Maya. Et il n'a effectivement pas forcément les rapports de force. Vous savez parfaitement ce qui se passe dans les organisations politiques, syndicales et associatives mixtes. C'est extrêmement difficile de mobiliser, même tes camarades, tu le sais, dans ton parti. Moi, je suis organisé aussi, il se trouve dans une organisation extrême-gauche. À quel point, effectivement, c'est considéré comme pas la dernière roue du char, je veux dire, vous savez parfaitement. Maya. Malgré tout cela, et je termine, nous avons quand même obtenu une série de choses depuis ton départ et depuis, etc. On a eu,
certes,
on a obtenu, par exemple, la loi de 2001, du 4 juillet 2001,
qui
est une avancée
dedans.
Réelle. C'est difficile de la faire appliquer, et je suis d'accord avec toi. Nous avons obtenu une série d'autres choses sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et les batailles, bon, on en parlera sur les violences que nous menons. Nous pensons effectivement que les Espagnols ouvrent la voie et on veut suivre dans ce sens-là. Mais je veux dire, ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas. Si nous-mêmes, nous ne valorisons pas ce que nous faisons, qui va le faire ? Personne. Si nous sommes toujours en train de dire, oh là là, nous sommes, qu'est-ce qu'on est faible, on est mauvaise, on est nanana.
Non.
Ça, c'est vraiment l'oppression.
Alors, écoute, Maya, c'est un regard que tu as.
D'accord, mais
tu le sais, moi. Mais chaque fois que tu vas dans la rue, je suis avec toi.
Bon. Ça, c'est vrai.
Non, mais évidemment.
On reconnaît qu'on descend quand même dans la rue de temps en temps.
Non, mais évidemment.
Et que de temps
c'est
en temps, on obtient quelque chose.
Mais je dis simplement que si on était plus nombreuses. Hein, assieds-toi. On dit simplement. Ça ne sert à rien. Mais on le sait bien qu'on n'est pas assez nombreuses. Le jour où tu seras plus là, le jour où je serai plus là, il y en aura d'autres. Non, mais il y en a d'autres. Il y a des jeunes. Mais comparativement, c'est pas les culpabiliser. Je déplore que culturellement, nous n'ayons pas les mêmes traditions que dans certains pays, comme au Canada, comme dans les pays nordiques, où il y a de puissantes organisations féminines. Et je vais aller dans ton sens... en disant que c'est pas propre aux femmes. Tu m'écoutes, c'est pas propre au mouvement des femmes. Nous avons aussi des syndicats trop faibles, des partis politiques trop faibles, mais ça, c'est le trait français. C'est dominant chez les Français. Au Canada, ils sont plus puissants. Dans les pays scandinaves, ils sont plus puissants. Ah, mais ça retombe peut-être. N'empêche que, il n'y a pas. Si nous avions plus d'union, si nous étions plus nombreuses, si au lieu de quand nous sortons dans la rue, si on était davantage unis, si on était trois fois plus nombreuses, on se ferait entendre davantage. C'est pas dans nos traditions. Ça peut changer. Oui, mais je vais vous dire, comme Maya, ça aussi c'est facile. De quoi elle parle? De qui?
Alors,
m'attendez, vous parlez de quoi là?
Mais ça, c'est pas par la gauche, hein, les subventions.
Prendre quelques minutes, s'il vous plaît, pour... on ne peut pas continuer. On a un programme qui est très chargé, donc on n'a pas de pause, là. On continue, on enchaîne. Je vais laisser Madame Roudy et Réjeanne Sénac terminer, peut-être. Si vous voulez dire Yvette Roudy... Si vous voulez dire Yvette Roudy, quelques mots pour conclure.
Ah ben je vais en profiter si vous me donnez la parole, évidemment. Hein? Maya va pas être contente. Je continue de dire que il n'est pas bon de cogner sur celles qui, pour des raisons diverses, peut-être se débrouillent mieux que d'autres. Et je vois très bien ce que vous voulez dire. Stratégiquement, c'est l'union qui peut être le plus payant. Moi, je plaiderai pour qu'il y ait des rencontres de concertation. Pour qu'il y ait des rencontres dans une perspective d'union. C'est comme ça qu'il faut faire, me semble-t-il, en politique. Et nos questions sont des questions politiques. Donc il faut essayer d'obtenir des rencontres autour d'une table, de regarder un peu ce qui nous divise, regarder ce qui nous rassemble, de prendre un point particulier, de savoir qu'on ne sera jamais d'accord sur tout, mais d'avoir aussi des possibilités d'action sur des points précis. Moi, j'ai appris à faire ça en politique. Quand j'étais maire ou quand j'étais autre chose, ou que j'essayais de rassembler autour de moi, je savais que je ne pouvais jamais avoir tout le monde en même temps, je savais qu'on ne serait jamais d'accord sur tout, mais de temps en temps, il faut voir ce que l'on peut faire ensemble. Il faut être positif, essayer de voir ce qui est le mieux pour essayer d'avancer. Les bagarres, les disputes entre nous, je crois que ça nous affaiblit toutes. Voilà.
Merci beaucoup.